France Inter.
Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Au commencement était le Verbe, au commencement était la parole, nous dit la Bible. Une parole qui n'a jamais été aussi omniprésente, omnipotente pour certains, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux qui peuvent vite devenir asociaux, car nous vivons un phénomène de civilisation majeure, la civilisation de la parole qui détruit. Plus que jamais, la parole est devenue une arme de destruction massive de l'autre ou d'un groupe, une parole destructrice qui prolifère comme une algue toxique, et il est temps d'y opposer des remèdes, car nous sommes détenteurs du super pouvoir de la parole, et cela implique de grandes responsabilités. C'est une tâche difficile, mais nous partagerons ensemble des outils, des comportements, des attitudes, une éthique pour ne pas sombrer dans une barbarie de la parole empoisonnée. N'hésitez pas à témoigner, à poser vos questions au 01 45 24 7000, ainsi que sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle, à la une du Femme Actuelle, mieux manger pour bien digérer. C'est essentiel d'ailleurs. Qu'y a-t-il dans votre panier de questions pertinentes, ma chère Marie-Laure ?
Le sage tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Cette formule attribuée au roi Salomon nous invite à un exercice simple en apparence, réfléchir avant de parler.
À tout à l'heure. Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Quel est le menu de vos choses presque vues ?
Bien écoutez, nous allons parler de Gueule de Bois et de Philippe Gueluc.
À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
T'es trop petite et t'es trop moche, t'es ordinaire en plus. Toute ta vie, tu resteras une fille de concierge. Tu peux me regarder comme ça, ça change rien. Tu t'accroches à moi depuis 6 ans. T'as aucune volonté, t'as aucun courage. Ton seul orgueil, c'est ça, c'est ta médiocrité. Alors, je suis en train de gâcher ma vie avec toi. De gâcher ma vie, parfaitement. Tu sens pas que j'ai envie d'une seule chose, c'est que tu te barres. Alors fais-moi plaisir, barre-toi. Barre-toi en Angleterre au moins, ça t'apprendra peut-être quelque chose. J'en ai vraiment plus rien à foutre de pas te voir, hein.
La parole destructrice de Jean-Yann dans le film « Nous ne vieillirons pas ensemble » de Maurice Pialat en 1972, à l'époque des paroles toxiques proférées de visu et qui aujourd'hui se déversent sans complexe et de façon tout aussi violente sur les réseaux sociaux. Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, chroniqueur au Monde, ancien chercheur au CNRS. Vous publiez avec votre femme Monique Atlan « Quand la parole détruit » aux éditions de l'Observatoire, un livre essentiel, passionnant. Dans ce livre, vous déplorez une parole en crise. Vous rappelez que jamais nous n'avons autant parlé, et paradoxalement, il semblerait que nous n'ayons jamais si peu parlé. Je vous cite, « Plus nous parlons, moins nous parlons ». Expliquez-nous ce paradoxe.
Alors, plus nous parlons, le fait est que nous sommes aujourd'hui saturés de messages, de paroles enregistrées, transmises, dupliquées, numérisées. De tous les côtés, il y a une prolifération, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, depuis le début de cette émission, c'est-à-dire quelques instants. Il y a certainement plusieurs centaines de volumes qui seraient déjà écrits s'il fallait mettre bout à bout tout ce qui a pu se transmettre. Et dans cette libération de la parole, du point de vue quantitatif, il y a par moments, pas toujours, mais massivement quand même, une sorte d'effondrement qualitatif. C'est-à-dire que les interactions entre individus, parce que la parole c'est cela, nous avons mis, Monique et moi, au début de notre livre, cette phrase de Montaigne. Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. C'est-à-dire la parole, c'est d'abord un échange, une interdépendance, une interaction. Et c'est cela qui est en train de se dégrader. C'est-à-dire que chacun parle, mais tout seul, la plupart du temps sans écouter les autres, et pour dire aux autres les mêmes choses, enfin, pour s'adresser à ceux qui pensent pareil que lui, et les autres, eh bien, ils sont ou annulés, ou injuriés, ou à tuer.
Et vous rappelez dans votre livre que nous vivons dans un torrent de paroles qui nous noie, qui nous étouffe, mensonges, calomnies, demi-vérités, fake news, mise à l'index en meute, et vous évoquez un risque majeur effrayant, l'existence de l'humanité, qui ne se résume pas, évidemment, à son aspect biologique. Qu'entendez-vous par là ?
Si nous ne sommes hommes que par la parole, ce qui arrive à la parole, évidemment, touche à notre humanité même. La parole, c'est pas un outil, c'est ce qui nous rend humain et nous fait exister. Sans elle, vous n'avez pas de littérature, de philosophie, de poésie, de science, mais vous n'avez pas non plus de société, vous n'avez pas de politique, vous n'avez rien. Tout est finalement construit sur nos échanges verbaux. Et alors, nous ne sommes pas du tout, Monique Atlan et moi, nous ne sommes pas catastrophistes. Lorsque vous mettez en lumière ce risque de barbarie, on a simplement voulu dire, voyons quel est le super pouvoir de la parole, cette extraordinaire possibilité que nous avons, qui est à double face. On a exploré, on insiste sur la face négative ou destructrice, mais il ne faut pas évidemment oublier la face positive.
La parole qui se libère, pour le meilleur, face à l'emprise des dominants.
Oui, bien évidemment, et qui, dans la libération de la parole, par exemple, de MeToo, a une face extraordinairement positive. Il est évidemment bien, à tous les égards, que des victimes qui se taisaient puissent parler, que des choses qui ne se disaient pas puissent se dire. Et il y a aussi, sur les réseaux sociaux, qu'il ne faut évidemment pas diaboliser, il y a aussi des solidarités, des mouvements politiques, des résistances au despotisme ou à la dictature, évidemment. Mais le risque majeur, c'est finalement une sorte de banalisation du négatif. Vous voyez, la maxime, une des maximes de notre époque, d'une certaine manière, si on voulait l'en rendre emblématique, c'est « je dis ça, je dis rien ». Je dis ça, j'affirme quelque chose, mais en même temps, je me désinvestis de ma responsabilité. Je pose ça là, comme on dit, vous voyez. C'est-à-dire que on oublie les conséquences, on oublie l'impact, on oublie le super-pouvoir et l'importance de la parole elle-même.
Et dans votre livre, Roger Paul Droit, vous alertez contre la marée montante des océans de boue, qui, je vous cite, charrie, injure, calomnie, insinuation, harcèlement, menace, des paroles toxiques qui peuvent aller jusqu'aux actes les plus horribles, le lynchage physique, la mise à mort réelle. Le Talmud rappelle d'ailleurs que la parole tue. La calomnie, c'est un poison terrible qui peut conduire celui qui l'a subi au suicide. Rappelons-nous du suicide de l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy il y a exactement 30 ans. La parole peut tuer.
Pierre Bérégovoy, il y a le petit Lucas. Récemment qui s'est suicidé. Il y a 800 000 cas de harcèlement de lycéens ou de collégiens en France par an. Et le fait est, si vous voulez, que tout commence d'une certaine manière par des jeux, du rire, de la dérision, c'est pas grave, on s'amuse, on est entre soi. Et ce que l'on ne voit pas, c'est que la blessure faite peut cheminer, gangréner, corroder une personne et finalement la conduire non seulement à la souffrance, mais à la mort. Et puis cette haine décomplexée, libérée, vous savez, la vieille haine, elle a toujours existé, évidemment. La calomnie, c'est pas une invention du numérique.
Vous le rappelez dans votre livre.
On le rappelle, on rappelle que toutes les civilisations ont connu ça. Et celles liées aux différentes variantes du monothéisme, plus encore. Le Talmud dit que la calomnie fait trois victimes. Celui qui la prononce, celui qui en est l'objet,
celui qui l'écoute.
Voilà. Et c'est pire, vous dites arme de destruction. Elle est comparée, la parole toxique, par un Johann de Gérone, un rabbin du XIIIe siècle, à une flèche. Parce que tuer l'autre avec une épée, ça peut être croiser son regard et du coup retenir son geste et se dire « je vais pas tuer ce type, je croyais que c'était un salaud, mais je vois que c'est un être humain ». Alors que la flèche, elle est partie et c'est fini. Et nous sommes, finalement, dans ce mode, mais démultiplié par les machines et par des changements aussi des sujets et des mentalités, on en reparlera peut-être.
Bonjour Michael Stora.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste, spécialiste des mondes numériques et vous avez publié chez Larousse « Réseaux asociaux. Sur les réseaux sociaux, nos paroles ont donc la capacité d'anéantir l'autre. Des paroles qui peuvent constituer des actes terribles. Avons-nous vraiment conscience de ce super pouvoir de destruction sur les réseaux sociaux notamment ?
Alors c'est assez intéressant parce qu'au fond la question de ce que nous en psychanalyse on appelle la pulsion de mort, la pulsion de destruction, à la base elle est d'abord retournée contre soi. Et c'est le principe même de la problématique de la personne qui est en conflit avec lui-même entre ses pulsions de vie, ses pulsions de mort. La parole en est un outil et d'une certaine manière, ce que nous dit la psychanalyse, c'est qu'au fond, face à des sentiments d'impuissance et de frustration, elle peut aller vers l'extérieur. Donc moi, je travaille plutôt sur la cause, finalement, de cette parole destructrice. Et ce qu'on perçoit, évidemment, entre autres sur les réseaux sociaux, c'est que les personnes qui souvent sont prises par ces discours de haine, de destruction de l'autre, lorsqu'on regarde un peu plus près, on perçoit des personnalités souvent prises dans des sentiments de frustration terrible, d'impuissance.
De ressentiment.
De ressentiment. Et d'une certaine manière, en essayant de comprendre qu'est-ce que ça vient dire de notre société. Et donc là, c'est compliqué puisque ça a été évoqué sur à quel point est-ce que l'être, à un moment humain, a besoin d'évoquer. Et en effet, à l'abri du regard de l'autre, propre à l'écran, mais aussi peut-être à certaines instances qui, toute la journée, nous obligent à avoir une forme d'hypocrisie sociale, le surmoi et l'idéal du moi, en gros, fait que les personnes, évidemment, se libèrent de manière complètement délirante, au point où je m'étais intéressé au premier procès de personnes qui avaient eu des discours haineux, de racistes, je pensais que c'était des gens d'extrême droite, pas du tout. C'était monsieur et madame tout le monde qui finalement, toute la journée, se retrouvaient prisonniers peut-être de ces oppressions du quotidien et qui finalement libéraient. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser aller cette parole-là. Mais néanmoins, et ça repose évidemment la problématique de, aussi de notre société qui s'est terriblement narcissisée. Et donc le narcissisme étant l'ennemi de l'empathie. Et en effet, au-delà, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à remettre de l'empathie entre les êtres humains. C'est un effort.
Roger Paul-Droit.
Il me semble aussi, et je voulais savoir ce que vous en pensez, qu'il y a finalement une sorte de grand délestage. Pas seulement le délestage de sa responsabilité, mais le délestage du corps. On se débarrasse finalement de son corps, de son nom, puisqu'on est anonyme, de l'autre, puisque on ne s'adresse plus à personne, de l'écoute de la parole de l'autre, et ce narcissisme devient d'une certaine manière tyrannique, c'est-à-dire c'est un comportement de petit tyran qui, pour exister, voudrait finalement parler, mais sans plus savoir ce qu'il dit véritablement. Est-ce que vous êtes...
C'est... Complètement, non, c'est toute la problématique, c'est à quel point est-ce qu'elle est adressée à l'autre, finalement, cette parole. Puisque d'une certaine manière, d'autant plus dans cette qui est cet autre sur Internet, on ne sait pas toujours. Et finalement, ce qui est surinvesti, c'est finalement presque une relation transférentielle par rapport à cet autre qu'on ne connaît pas réellement. Et donc, ce qu'on touche dans l'autre, c'est peut-être soi, évidemment, mais c'est quelque chose qui est du côté de la destructivité.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour.
Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université. Vous avez notamment publié « Je parle comme je suis » aux éditions Grasset, votre regard sur notre début de conversation.
C'est très intéressant. En fait, ce que je voudrais peut-être préciser, c'est qu'en linguistique, on distingue bien le langage comme capacité humaine que vous décriviez bien, qui est le propre de l'homme, mais aussi les discours qui sont des manifestations ponctuelles et qui s'exercent dans différents contextes. Et donc, ce que je dirais, c'est que, évidemment, c'est un contexte dont on parle, le contexte des réseaux sociaux. Ce contexte, en effet, a toutes les qualités que vous dites. Et notamment, oui, la parole n'est pas du tout adressée. Et d'ailleurs, l'extrait du film de Piala était un bon contre-exemple, au sens où il insulte une personne qu'il aime pour l'humilier. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que la plateforme des réseaux sociaux offre un espace, en effet, d'expression pour des constructions de posture. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que toutes les personnes qui s'investissent dans ce type de médium recherchent à signifier par différence avec ce qui existe déjà, donc à tenir des propos tranchés. Donc le médium invite à avoir des postures tranchées, à avoir une valeur ajoutée. Et donc vous verrez des profils très divers, mais dont on peut établir une typologie, je pense, assez facilement. Il y a ceux qui apportent un contenu pédagogique, il y a les pédagogues qui éclairent sur des contenus, ceux-là apportent véritablement quelque chose. Et il y a aussi, évidemment, ceux qui viennent qui se servent de ce médium comme d'une poubelle, en effet, où la catharsis d'émotions sombres est possible, puisqu'il y a ce sentiment d'exister davantage. Et donc, ces personnes-là recherchent un sentiment d'existence qui ne leur coûte pas, en effet, puisque c'est anonymé. Et donc, il me semble qu'en rééduquant, en éduquant tous ceux qui se risquent à aller dans cet espace, il faut savoir cela. C'est-à-dire que c'est vraiment une question d'éducation. Les personnes qui recherchent, en fait, de la bienveillance ou des sentiments, c'est limite hors sujet. C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression qu'on va à un entretien d'embauche avec un gros bouquet de roses rouges, ceux qui croient qu'ils vont aller là-bas pour avoir de la tendresse, des échanges, de la réciprocité. Non, il s'agit seulement de micro-monologues qui construisent un ethos, ce qu'on appelle ethos depuis Aristote, c'est-à-dire une image de soi. Cette image de soi doit être, la plupart du temps, une promotion de votre œuvre, de votre vie. Des gens qui s'agglomèrent autour de ça, ça fait des groupes. Ce groupe-là donne l'illusion d'exister, de partager quelque chose à des personnes qui sont très isolées. Et tout ça doit être dit afin que les personnes fragiles n'y aillent pas, que celles qui ne sont pas fragiles prennent ce risque-là. Enfin, on doit être éduqué à ce type de communication qui n'est pas une communication, qui est une mise en commun, un espace quasiment professionnel, en fait, de promotion.
Roger Paul-Droit ?
Avec la difficulté, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais qu'il y a beaucoup d'adolescents sur les réseaux.
Oui.
Il y a beaucoup de tout jeunes filles et tout jeunes hommes, et du coup, il y a là quelque chose qui est aussi une forme de croyance de leur part que ce qu'ils voient, écoutent ou lisent est vrai, d'une certaine
c'est
manière,
pour ça que je parle
et important.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un travail d'éducation profond, qu'il faut mettre des limites, interdire, préparer. Moi, j'ai l'impression que la génération des 20, 35 ans, par exemple, ou peut-être 15, ils s'en sortent très bien. Ils savent qu'il n'y a pas d'autre chose à attendre que des informations sur des faits culturels, des promotions à booster, oui ou non, vous voyez. C'est vraiment les zones de fragilité, je pense qu'il faut travailler, c'est-à-dire ces préadolescents.
Michel Sorin.
Oui, alors parce qu'il y a beaucoup de choses entre les problématiques de harcèlement qui touchent.
On y reviendra demain dans l'émission d'ailleurs.
Bon, d'accord. Donc j'aborde pas trop l'harcèlement. Donc je suis pas invité demain, mais non, au-delà de ça. Bon, je vais quand même dire ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet qui en effet commence d'abord dans le réel. Et je pense que ne soyons pas trop naïfs. Les adolescents s'éprouvent parfois dans l'amour, c'est-à-dire pour certains adolescents, les insultes sont comme des mots d'amour. Et je crois que c'est aussi une manière de rentrer en contact avec l'autre. Et en effet, par contre, ce qu'on va percevoir, c'est la problématique de la différence. Et ça, c'est vrai que là, ça pose ce problème. C'est comment est-ce qu'une personne dite différente va se retrouver stigmatisée et avec l'amplification délirante sur les réseaux sociaux. Mais au-delà, moi, mon travail plutôt avec... Je reçois plutôt des ados. C'est plutôt d'arriver à leur permettre de se sortir aussi d'une position de victimisation. Et c'est vrai qu'étrangement, on retrouve des micro-situations qui montrent à quel point Internet va lui-même rentrer dans ce jeu étrange qui est que d'un côté il y aurait les gagnants et de l'autre les perdants. Et finalement, je dirais que souvent, on perçoit qu'on est dans une société où il faut toujours gagner. Et ça, c'est peut-être un des problèmes qui engendre paradoxalement de la violence, c'est-à-dire l'incapacité à supporter l'échec. Voilà, c'est une réflexion.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, Roger Paul-Droit, pour rester sur cette problématique des jeunes, vous l'avez cité, 60% des jeunes ont déjà été victimes de cyberharcèlement et la moitié d'entre eux a déjà pensé au suicide. Il faut quand même bien le rappeler. Alors, pour ces jeunes générations, Julie Neveu parlait d'éducation, mais à moins de leur confisquer leur portable, tout simplement, de quel levier dispose la société tout entière pour assécher ces torrents de boue ?
Plusieurs choses, mais aucune qui soit la recette miracle. Il s'agit évidemment, d'abord, d'éducation. D'expliquer le poids des mots, le fait que des choses que l'on dit pour se faire plaisir, ou pour se moquer des autres, ou pour s'affirmer soi-même, etc., s'adressent à des gens, ont des conséquences, se poursuivent dans leur existence. Et cette prise de conscience, je crois que c'est un travail permanent de nous tous. Si chacun, vous le disiez tout à l'heure, tournait cette fois sa langue, mais si c'est tourner cette fois son pouce au-dessus de son clavier, réfléchir un peu ou simplement avoir conscience que ce que l'on dit, tweet, like, etc., a un impact. Et que c'est pas juste un truc neutre qu'on oublie aussitôt. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a évidemment toute une série de questions législatives, morales, concernant la responsabilité publique et la responsabilité individuelle. Il y a bien évidemment des entraves à mettre sur l'anonymat. On ne pourra pas le supprimer complètement, ça c'est clair, parce que juridiquement et même éthiquement, ce n'est pas forcément possible, mais le rendre plus difficile parce que c'est un des facteurs. Il y a un autre facteur, c'est toutes les questions de régulation des plateformes, qui évidemment ont un intérêt à faire de plus en plus d'audience, de plus en plus de maintien des gens en ligne, et dont les algorithmes aussi favorisent les contenus haineux ou violents. Il y a toute cette dimension-là. Et il y a des travaux en ce moment de régulation législative en Europe. Mais simplement, l'obstacle à cela, ou la limite, c'est que les plateformes sont planétaires, les connexions sont mondiales, et toutes les législations, même si elles sont positives, vont être régionales par pays ou par continent. Et en fin de compte, il me semble que la clé principale, c'est pas la seule, c'est pas de recette miracle, mais la clé principale, c'est la responsabilité individuelle. C'est que chacun, effectivement, à son niveau, selon son âge, son instruction, ses désirs, ait un peu plus conscience de l'usage de notre super pouvoir de la parole et se dise qu'on peut pas faire ni dire n'importe quoi. Et de temps en temps, fait mieux de se taire.
Petite précision, l'idée centrale de votre livre, c'est de ne pas nous empêcher de parler ou d'étouffer les conflits. C'est pas ça l'idée.
Ah, c'est pas du tout l'idée.
Vous n'êtes pas un censeur.
Non, ni on n'a pas, on fait pas la morale en disant voilà comment il faut bien parler. Attention, ne nous affrontons pas et soyons tous comme ça dans une sorte de bisounoursisme universel. Mmh. Non, pas du tout. Mais la grande différence entre un affrontement d'idées, je peux être en désaccord avec toi, on peut avoir des vues absolument différentes, mais je vais dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Je vais écouter ce que tu diras de contre ce que je pense, etc. Et nous pouvons finalement ne pas trouver de solution, constater que nous vivons sur des planètes intellectuelles différentes. Ça n'est pas pour ça que je dirais que tu es un salaud, ou ce que tu penses, tu le penses parce que tu es quelqu'un de moins bien. Voilà, c'est ça, c'est le glissement de ce qu'on dit à ce que l'on est, qui est quelque chose qui détruit.
Julie Neveu.
Oui, en fait, c'est juste que je pense que ce médium, enfin les réseaux sociaux ne sont pas propices, il est impossible d'avoir un débat que vous décrivez là qui n'est possible que dans une interaction verbale, physique, on prend le temps, on écoute, il y a le silence, les hésitations, on revient sur ce qu'on a dit. Or, c'est l'inverse que proposent les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette posture d'immédiateté qui tranche et qui dit une opinion courte, sur laquelle les autres peuvent se greffer ou annuler. En
fait. La nuance est donc impossible ?
Et je pense qu'elle est franchement pas prévue dans le programme de ce type, oui, qui ne sont pas d'échanges, de communication.
Michael Storin.
C'est vrai, c'est intéressant sur la question de l'ergonomie des échanges, sur le fait que les phrases, finalement, sont les unes au-dessus des autres. Alors que finalement, lorsqu'on parle comme ça, et c'est pas aussi linéaire. Et là, c'est vrai que c'est un vrai questionnement. Et en même temps, lorsque Facebook a décidé de créer finalement des algorithmes pour empêcher qu'il y ait des conflits, des propos haineux, ce qu'on a appelé les bulles algorithmiques, c'est dramatique aussi. Puisque finalement, on va vous présenter des personnes qui pensent comme vous, ce qui est terrible, et que donc, je pense, puisqu'on parlait de valoriser le conflit comme un moyen d'accepter la différence. Parce que c'est un outil terrible de vouloir éviter à tout prix l'autre, comme un étranger, et que donc on va se retrouver avec des autres semblables. Et là, je pense que c'est aussi le début d'une parole qui tourne sur elle-même.
Dans un instant, continue à explorer la parole comme arme de destruction massive. Ce sera juste après avoir écouté Jacques Higelin, qui interprète Champagne, un titre de 1979, 10h29 sur Inter.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage. Lutin, luciole, feu follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, elle
me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleux émus, fier aux gorgones, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition.
Jacques Higelin interprété Champagne.
Vous ne comptez pas me faire manger dans la cuisine tout de même.
Si. Grand bien vous fasse.
J'ai pris des paupiètes, ça vous va?
Ali Rébéi.
Ça peut pas tomber mieux.
Sur France Inter.
J'ai horreur de ça.
Quand la parole devient une arme de destruction, c'est notre thème ce matin à l'occasion de la sortie du livre de Roger Paul-Droit, Quand la parole détruit. Alors Roger Paul-Droit, nous avons tendance à oublier que la parole était un super pouvoir, vous le rappeliez tout à l'heure, un super pouvoir qu'il faut manier comme de la nitroglycérine. Les pulsions d'amour, je t'aime, et pulsions de haine, je ne t'aime pas.
Absolument, et cette double face, c'est finalement, c'est l'ambivalence humaine, c'est l'ambivalence de l'être humain. Nous sommes tous avec de l'amour et de la haine, avec de la vie et de la mort, avec de la pulsion de vie et pulsion de destruction. Et c'est le jeu complexe et les articulations multiples entre les deux qui animent non seulement notre existence, nos émotions, nos affects, mais évidemment nos paroles. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça, c'est pas nouveau, ça traverse toute l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a, en fonction de des modalités même de la communication sur les réseaux, et en fonction aussi d'une part de changement des individus eux-mêmes, une rupture d'équilibre finalement. Voilà.
Et vous écrivez que, vous rappelez que nous vivons une crise, crise qui vient du grec krisis, qui vient du verbe krino, qui signifie séparer, discerner, faire le tri. Et en ce moment, il y a quelque chose de fondamental qui se décide. La crise, quand une maladie évolue, elle marque une étape qui conduit vers la guérison ou vers la mort. Et là, en ce moment, on vit pour vous un moment très important.
Oui, parce que ce vieux terme de crise, c'est chez Hippocrate et la médecine grecque, c'est effectivement le moment où tout se décide. Voilà, quelque chose éclate, et ou bien le malade guérit, ou bien il va vers sa mort. Et il me semble que c'est quelque chose de multiforme, évidemment. Nous n'avons pas, Monique Atlan et moi, dans ce livre, la clé définitive et la recette miracle. Mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire entendre, sur lequel il faut attirer l'attention. Nous lançons une sorte d'alerte. Ce quelque chose arrive planétairement à la parole, qui doit être, en quelque sorte, vu. Parce que si on ne le voit pas et que les choses se dégradent, on va vers une forme de barbarie nouvelle qui nous menace. Voilà.
Michael Stora, psychologue clinicien et psychanalyste.
Oui, la question de l'image de soi et qui l'emporte parfois étrangement sur la parole. C'est-à-dire à quel point l'image maintenant a un statut quasi existentiel, au fond, cette idée de vouloir exister avant tout dans le regard de l'autre, et comment est-ce que ça vient attiser toutes sortes de paroles. Mais derrière, je pense qu'il y a un autre drame qui se joue, que j'ai un peu évoqué à travers le narcissisme, mais au-delà, c'est finalement ce qui se passe de ce que nous, on observe dans la parentalité depuis 20-30 ans, c'est-à-dire l'incapacité qu'ont beaucoup de parents à dire non. Et le dire non, étrangement, pour beaucoup de parents, lorsqu'on les interroge, c'est quasiment du côté de la destruction. Et nous, on se retrouve à soigner beaucoup d'enfants qui, justement, n'ont plus peur de rien. Et c'est très étrange, mais finalement, ça entraîne quelque part une incapacité à pouvoir envisager l'autre. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser que cette problématique de la parole destructive sur les réseaux sociaux, entre autres, est le résultat de cette tendance à envisager finalement l'enfant comme une sorte de prolongation d'un soi idéal, où finalement bah, tous ces sois en miroir se retrouvent à être dans une forme de guerre des clones. Et c'est ça aussi qu'on perçoit, au point où certains vont envisager avant tout l'autre du côté de la compétition. Et c'est ce que j'évoquais à travers comment aider notre société à accepter la question de l'échec.
Julie Neveu, linguiste.
Oui, on dirait qu'il y a une sorte de transfert de la parole d'autorité, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait que la parole autoritaire s'exerce dans un cercle familial, intime, avec tout ce qui est autour, qui va avec la bienveillance. Et en fait, on se retrouve à avoir des jeunes personnes qui sont exposées à des paroles qu'ils prennent comme des paroles d'autorité, de vérité, alors que ce n'est pas du tout là le lieu. Ce sont simplement des bribes d'informations qu'ils pourraient glaner. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut sans doute réajuster.
Roger Paul-Droit, pourquoi faut-il se rappeler les contes de ma mère Loi de Charles Perrault, et en particulier du conte intitulé « Les deux sœurs ». Je rappelle rapidement l'histoire, hein, la cadette douce et bienveillante, eh bien, la fée la gratifiera d'une parole bénéfique. L'aînée, elle, est arrogante, elle est blessante, elle est méprisante. Et la fée lui réserve le sort suivant, je la cite, « Je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » Pourquoi faut-il méditer ce conte de Charles Perrault ?
Alors, ce conte de Charles Perrault, qui s'intitule « Les fées », en fait, parle effectivement de deux sœurs, mais elles sont, elles incarnent finalement l'une la parole gentille, douce, constructrice, et l'autre la parole destructrice, négative et affreuse. Ce que donc ça c'est évidemment elles ont chacune dans l'histoire un sort, l'une heureux, évidemment elle se marie avec un prince, elle doit avoir beaucoup d'enfants, et l'autre finit comme dans la misère et le bon. Mais c'est pas ce qui nous a intéressé dans cette histoire, Monique Atlan et moi, c'est finalement le fait que ce que Perrault représente comme deux sœurs distinctes, c'est en fait chacun de nous. Nous sommes les deux sœurs. Nous avons évidemment une face claire et une face sombre, une face une parole gentille et une parole agressive. Mais je crois qu'il y a une chose que l'on n'a pas dite encore et qui me semble faire partie du changement de paysage actuel, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les machines parlent. Et ça change, me semble-t-il. Il y a le changement numérique, il y a le changement finalement du statut de la parole, des dialogues et de la communication. Ça, on l'a évoqué. Mais le fait... C'est dans les contes de fées, autrefois, qu'on disait « fenêtre, ouvre-toi » et que ça marchait, mais ça marchait jamais dans la réalité. Maintenant, un peu de domotique, on a des trucs connectés, et tu dis « fenêtre, ouvre-toi », elle s'ouvre. Enfin.
Mais bon. Roger Paul-Droit, quand on s'apprête à proférer des paroles haineuses sur les réseaux sociaux, il est bon de se rappeler de la morale des contes de la meilleure loi, de se dire qu'il y a peut-être des serpents symboliques, évidemment, ou des crapauds qui vont nous sortir de la bouche.
Oui, parce que tout ça, il faut voir aussi que ça n'est pas seulement une affaire individuelle. Mmh. C'est pas un truc d'individu à individu. Ça existe évidemment dans les cas de les multiples cas de harcèlement et de d'altercation. Mais c'est aussi évidemment une affaire mondiale et collective. Et donc, ce qui se modifie dans le langage social, collectif ou politique, a évidemment des effets à long terme sur le sort et la condition des individus. toutes les totalitarismes du XXe siècle, et nous ne sommes pas pour l'instant, au moins dans nos pays européens, dans une menace totalitaire à proprement parler, mais tous les totalitarismes ont commencé, et les massacres aussi, par des mots. Il faut le couplage d'une parole d'État, d'une idéologie d'État et des moyens de communication. Pas de nazisme sans la radio. Pas de génocide des Tutsis sans Radio Mille Collines, qui a commencé d'abord par une radio joyeuse.
En 1994.
Voilà, 94.
Génocide par les mots.
Oui, c'était Radio Mille Collines, c'était en quelques semaines un grand succès. C'était de la musique syncopée, entraînante. C'était des blagues, dont des blagues qui se moquaient des cancrelats tutsis, qui disaient qu'il allait falloir désherber et éliminer tout cela. Et dont une partie des tutsis eux-mêmes riaient. Et quelques mois plus tard, c'est 800 000 morts à la machette au Rwanda.
La radio Mille Collines qui incitait à se débarrasser une fois pour toutes des cafards, des cancrelats, tous entre guillemets bien évidemment, des serpents qui pourrissaient la vie du pays.
Voilà, et quand vous parlez de cancrelats, vous commencez à transformer des êtres humains en vermine à éliminer. Il y a cette... Et c'est Victor Klemperer qui a étudié la langue du Troisième Reich, il faut absolument
lire. Était philologue.
Voilà, c'est un philologue juif.
Professeur à l'université de Dresde.
Et chassé de l'université par les nazis, obligé de gagner sa vie en usine, et qui, la nuit, écrivait ce qu'il observait des changements de la langue. Et il montre bien que ça n'est pas un fait de propagande. Il suffit pas de dire les nazis ne disaient pas comme ça simplement des formules et ils changeaient. Tenez un exemple qu'il donne. Fanatique. Pour nous, c'est l'aveuglement de la foi, ce qui permet de tuer au nom d'une vérité supposée. Non. Dans le vocabulaire nazi, fanatique signifie finalement résolu, bien adapté. Les soldats opposent une résistance fanatique aux ennemis, c'est-à-dire qu'ils tiennent, ça devient Julie positif.
Oui, le langage est un des outils les plus efficaces à reconstruire la réalité et à influencer sans le dire, notamment par les métaphores que vous disiez, cancrelat, etc. C'est-à-dire que la personne qui écoute ce genre de discours peut au début en rire car elle perçoit l'écart entre la réalité et la vérité et ce discours. Et puis au fur et à mesure qu'elle réentend, qu'elle réécoute, c'est le principe du lavage de cerveau. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des connexions dont on remarque plus l'incongruité et après on se met à percevoir les êtres dont on parle de cette façon-là.
Michael Storin.
Oui, non, là parce que c'est la question de la justification d'idéologie totalitaire, voire destructrice, et évidemment comment est-ce que les mots reprennent avant tout un discours qui est avant tout d'ailleurs teinté d'émotions et d'affects. Et ce qui est vrai, c'est que moi, dans les réflexions autour des réseaux sociaux, il faut bien comprendre qu'il y avait un espoir de démocratisation, tout de même, d'une parole enfin libérée, où les gens pouvaient dire qu'ils étaient. Mais très rapidement, on s'est rendu compte quand même que il y avait derrière un fantasme fou qui était celui de la liberté d'expression. D'ailleurs, on voit bien comment Elon Musk, avec Twitter, revient à nouveau sur cette idée-là, mais sans prendre en compte qu'évidemment, la liberté existe parce qu'il y a un cadre, une forme d'éducation. Mais ce qui est vrai, c'est que derrière, on voit bien comment des sentiments de persécution reviennent à la charge et vont trouver, évidemment, sur les réseaux sociaux, des échos sur la capacité à pouvoir finalement accepter, et c'est ça qui est compliqué, à quel point nous ne sommes pas tout-puissants. Et je crois que c'est ça la question à nouveau, c'est comment trouver un espace où il est possible d'envisager l'autre comme aussi quelqu'un de différent.
10h44, il est l'heure de retrouver les choses presque vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Dieu merci, Roger Paudron n'a pas renversé son verre d'eau sur vos notes, Éric Libiot.
Non, j'ai renversé que sur les miennes.
Alors, mon cher Éric.
À la parole de boue dont vous parlez dans votre livre, Roger Paulroy, je préfère la langue de bois, celle qui enfonce les portes ouvertes et de toutes les couleurs, celle qui enfume et fait un tabac dès lors qu'on ne veut rien dire tout en disant quelque chose sans en avoir l'air alors qu'on ne sait pas forcément de quoi on parle. La langue de bois s'invite chez les grands industriels, chez les grands patrons du CAC 40 et bien sûr chez les femmes et les hommes politiques. Je critique, mais attention, la langue de bois, c'est du boulot. Même si c'est le être et le néant, les mots s'enchaînent et il est facile de s'y noyer, même de s'y paumier. Et on peut plier sous les poids de toutes ces phrases qui se vident de sens au fur et à mesure qu'elles s'énoncent. Pourtant, je dois reconnaître que je suis fan de la langue de bois. C'est un exercice que l'on moque facilement, mais qui intellectuellement demande une grande souplesse d'esprit, une grande modestie aussi, du courage également et un côté bravache. Car le parleur de langue de bois avance en terrain découvert. Il sait qu'il ne dit rien, mais il y va. Il sait que son propos tourne en rond, mais il tourne avec lui. Surtout, ceux et celles qui l'écoutent savent pertinemment de quoi il retourne, justement. Tout le monde est au courant, tout est sur la table, alors qu'en fait, il s'agit de planquer sous le tapis ce qu'il ne veut pas se dire. Mais aujourd'hui, sous le règne des grands communicants, la langue de bois est doucement devenue élément de langage. Un label qui est lui-même fait d'un beau bois, mais c'est du pipeau et le charme n'y est plus. En politique, on balance de l'élément de langage comme on balance des claques à la vérité. Ici, la parole est en argent plaqué et le silence est au repos. Il faut parler, il faut occuper le terrain, prendre racine dans le débat, sa gueule de bois, toute honte bue, mais sa gueule sans âme, sans poésie, sans humour. Et que l'expression « langue de bois » se soit transformée en la formule « élément de langage » n'est sans doute pas un hasard. De l'une à l'autre, on est passé d'une langue populaire, imagée, vivante, à un machin rigide et technocratique, donc plus pervers, sorti d'un bureau sans fenêtre, sur la rue ni sur le monde. Et c'est bien là le drame. D'abord, ces penseurs de bureau fonctionnent en circuit fermé et deviennent vite des penseurs de radins, à force de voir l'avarice plutôt que la vertu. Ensuite, ils nous prennent pour des idiots capables de tout avaler sans rien comprendre. Enfin, et surtout, ils détruisent la langue, pire, ils la déracinent et la fichent dans un bocal. Alors ce matin, je lance un appel pour un retour de la langue de bois en bonne et due forme. Fini l'élément de langage élitiste qui cache la forêt et qui se répète à l'infini jusqu'à s'épuiser et mourir dans la différence, et vive la langue de bois qui bourgeonne et se réinvente à chaque printemps pour ne pas mourir. En conclusion et résumé de cette chronique, cette sage parole de Philippe Geluck par la voix de son chat, je n'ai rien à dire de spécial, mais je tenais à vous le faire savoir.
Roger Paul-Droit, petite réaction.
Bah, la langue de bois, c'est chez Descartes, vous savez, il sait quand il sait poncer la langue, ça fait de la poussière, et donc Descartes dit « je ponce, donc j'essuie
». Julie Neveu.
Pardon. Eh bien, moi, non, je trouve intéressant que, et pour la langue de bois et les éléments de langage, ce qu'il y a en commun, c'est une fois de plus une personne qui n'endosse pas l'autorité, c'est-à-dire l'origine d'un discours, mais qui reprend ici et là, et qui fabrique du tout parler déjà.
Michel Stora.
Oui, non, la langue de bois, on la trouve énormément sur la toile, et je dirais que parce que justement, c'est souvent un peu nord-californien, ce côté so amazing, so wahoo, ou finalement always good, et ça fait penser à l'idée d'un monde où finalement tout va bien.
Trois anglicismes, vous allez avoir. Du courrier de la médiatrice de Radio France qu'on salue, Emmanuel.
Parce que je faisais une référence à la Californie du Nord.
Évidemment, évidemment. Je vous taquine. Les choses presque vues d'Éric Libiot à podcaster et à partager sur l'appli et le site de France Inter. Dans quelques instants, comment réapprendre à se parler? Ce sera juste après avoir écouté Jane qui interprète The Fool.
Walking on the wire from Earth to Venus ground. Playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun lights up the dark.
Thank you.
attention, non. Oups, Jane, pardonnez-moi, je te mets hors antenne. Jane, The Fool.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Quand la parole devient une arme de destruction, c'est notre thème ce matin, l'occasion de la sortie du livre de Roger Poldroit, Quand la parole détruit. Question de Marie Zonshine, de Femme actuelle.
Oui, on est très dissipé, il faut le dire, hein, dans oui. ce studio. Oui, Roger Poldroit, parmi les pistes que vous proposez pour redonner à la parole sa juste place, sans débordement, vous expliquez qu'il faut instaurer une habitude de l'écoute attentive. C'est-à-dire, dites-vous, permettre à sa propre réflexion de s'enrichir de la confrontation avec celle des autres. Alors, comment faire? Puisque quand on est avec son téléphone devant son ordinateur, qu'il y a un message qui passe, il faut poser, laisser reposer. Il y a un silence qui peut aussi être perçu comme une approbation ou une forme de faiblesse. Comment on gère tout ça pour parvenir à cette écoute attentive?
Eh bien, on essaye de prêter le plus d'attention à ce que disent les autres plutôt qu'à ce qu'on dit soi-même. Je crois que c'est une des maximes de base, c'est-à-dire que l'annulation de la place de l'autre et la suppression de sa possibilité de répliquer à ce qu'on dit, c'est le début, justement, d'une sorte de posture tyrannique. Nous sommes seulement en conversation et en dialogue si nous écoutons ce que les autres disent ou objectent. On peut n'être pas d'accord, mais cette dimension de l'écoute de la parole de l'autre, c'est le point de départ de notre possibilité d'être parlant. Si nous annulons cela, alors nous parlons tout seuls comme des machines d'une certaine manière ou des automates, mais nous ne sommes pas en interaction, nous ne sommes plus en échange. Alors évidemment, l'ensemble des dispositifs de connexion rend cela malaisé, mais on n'est pas peut-être obligé non plus de parler tout le temps. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. On n'est pas obligé de dire, de se transformer en expert de tout. Il y a des tas de choses, pour ma part, que je ne sais pas, dont je ne veux pas parler, sur lesquelles j'ai rien à dire, ou bien dont je sais que sur ce que j'ai à dire ne sera pas intéressant, donc j'essaye dans ce cas-là de me taire. Voilà. Et il y a une valorisation possible aussi du silence. Le vieux Lao Tzu, en Chine, dit « Celui qui sait se tait ». Voilà, mais c'est un autre, c'est des choses que nous devrions de temps en temps rappeler.
Julie Neveu, linguiste.
Autre salle, autre ambiance. Non, j'ai un autre truc à dire, plus intéressant. Non, je voulais dire que c'est vrai qu'en plus, pourquoi ces paroles ont tant d'impact et qu'elles elles créent des sentiments de frustration et d'impuissance auxquels on a envie de réagir, c'est que non seulement on est médusé par l'écran, donc la situation que vous décriviez, on est médusé par l'écran. Il y a des messages qui paraissent très vite, beaucoup, et en fait, ces messages ont des caractéristiques de l'oral. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, de très nouveau, très propre à ce médium, c'est-à-dire que des messages s'empare, s'attoure, vous voyez, on a des atours de réactivité, de spontanéité, avec des émojis, des formats très courts, sauf qu'en fait, c'est de l'écrit. Et ce statut hybride écrit-oral crée une réaction ambivalente, parce qu'on a envie de réagir vite, en effet, elle n'incite pas du tout à réfléchir, et pourtant, elle n'aide pas à réfléchir, parce qu'elle méduse, on est proprement médusé par ces messages, et donc il faut encourager, oui, à poser la chose, à aller réfléchir, à se rappeler, parce que ce sont quand même des écrits qui restent.
Mais Michael Stora, comment réguler ces pulsions quand on s'apprête peut-être à déverser une parole destructrice, toxique sur les réseaux sociaux? Comment on régule ces émotions très fortes, pulsionnelles? Comment on fait?
Je trouvais intéressant l'idée d'apprendre à se taire, mais c'est pas suffisant. Moi, j'ai une petite idée étrange qui est que, là, par exemple, là, on parlait ensemble, personne n'a liké ce qu'on se disait chacun, et je pense qu'il faudrait concrètement enlever les likes. Pour moi, le like est l'invention la plus diabolique qui fait que le dialogue n'est plus un dialogue, mais finalement une sorte de joute. Et les gens ont d'ailleurs un certain plaisir à se jouter. En soi, ça peut être amusant dans le sens où certains sont bons. Mais néanmoins, c'est vrai que cette question du like, du narcissisme du dialogue, qui a finalement empoisonné la capacité à être vraiment en lien avec l'autre. Voilà, c'est une des idées, c'est de supprimer les likes.
Roger Poldroit.
Mais l'existence des likes ou des partages aussi, c'est touche au statut de la parole. Est-ce que je parle vraiment quand je like un tweet ou un message, ou quand je le partage? Je ne suis pas l'auteur, en même temps je parle pas vraiment, et cependant je duplique, je multiplie. Il y a là, les machines elles-mêmes, d'une certaine manière, induisent un changement dans le statut d'être celui qui dit quelque chose.
Le Bruno Humbeck, le psychologue, parle de spect-acteur. Voilà, c'est, oui. C'est pas mal, je trouve, comme formule. Julie Neveu.
C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'en effet, ces paroles ne sont pas des paroles, sont des petits discours qui sont monologiques et qui ne sont pas adressés et qui n'ont comme vocation, comme finalité, que rechercher l'assentiment, donc les likes. Donc ils se nourrissent de ces likes, ils prolifèrent des likes, d'ailleurs ils encouragent, vous voyez, et en fait... Moi, il me semble tout simplement qu'il faudrait expliquer cela, en quoi consiste, quel est le mode d'emploi de ces réseaux sociaux. C'est cette promotion soit soumise, soit active, c'est-à-dire soit vous recherchez les likes, soit vous donnez vos likes. Mmh. Les likes qui n'ont rien à voir, évidemment, avec le sentiment qui pourrait peut-être être assimilé, à savoir de la vraie bienveillance. Non, c'est juste d'accord, ça m'intéresse. Mmh. Et c'est tout. Et donc, tout ce qui est recherche d'autres choses plus profondes, de pensées nuancées, ne peut pas avoir lieu sur ce type de plateforme.
Roger Paul-Droit, j'aimerais terminer avec une piste majeure que vous évoquez à la fin de votre livre, et vous l'avez évoqué un peu au début de l'émission, c'est de réendosser la responsabilité personnelle de ces paroles. Ça, oui. C'est essentiel, c'est fondamental.
Ben, c'est tout l'inverse du « je dis ça, je dis rien ». Réendosser cette responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Spondeo, en latin, ça signifie s'engager. Respondeo, c'est tenir un engagement. Et quand nous parlons de répondre, c'est bien évidemment répondre à quelqu'un qui vous dit quelque chose, mais nous avons aussi à répondre de la parole elle-même. Répondre de la parole, c'est dire, eh bien, ce que tu me dis, ce que je te dis, nous avons à le prendre au sérieux, nous avons à savoir que ça a des conséquences et que ce n'est pas en l'air, que ça n'est pas quelque chose qui, d'une certaine manière, disparaît comme ça, soudainement, mais a des impacts, peut construire entre nous des solidarités, des liens, des alliances, des fraternités, ou bien détruire. La parole, ça sert aussi à aimer ou à haïr, ça sert à faire la guerre ou la paix.
En quelques secondes, Michael Stora.
Oui, moi je lutte contre les clivages, évidemment, et déjà le premier clivage vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant l'idée que je peux me simuler comme cet autre qui me fait tellement peur sur les réseaux sociaux. Les autres vont venir dire non, tu as le droit d'être comme cela aussi. Et ce qui est vrai, c'est que oui, en effet, je pense qu'il faudrait réenvisager l'autre et l'étranger à l'ère des réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Julie Neveu. Vous reviendrez la semaine prochaine pour parler de votre nouveau livre consacré au langage de l'amour. Merci beaucoup, Michael Stora. On peut lire avec profit Réseaux Asociaux. Merci, Roger Paul-Droit. Je recommande vraiment la saine lecture du livre que vous avez co-signé avec Monique Atlan, Quand la parole détruit, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci au Tic et Tac de ce mardi, hein, Marie-Laure Sunshine et Eric Libio. Demain, une émission dans la droite ligne de celle de ce matin, Comment lutter contre le harcèlement scolaire, avec les psychologues Bruno Humbeck et Florence Millot. Toutes vos questions et vos témoignages dès maintenant sur l'appli France Inter.
Ça vous dit un bon plan Distri ? Jusqu'au 11 avril, dans tous les magasins Distri Center, c'est moins 50% sur la deuxième paire de tennis en toile. Moins 50%. Spéciale dédicace au budget, l'offre est valable dans toutes les pointures et pour toute la famille. Et vous savez quoi ? Des bons plans comme ça, c'est toute l'année chez Distri. Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr.